en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean de Kerguizou de Kervasdoué, professeur au CNAM, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. C'était le 22 avril 2013. Dans le domaine des systèmes de santé, que pouvons-nous apprendre des autres pays? Son intervention s'intitule « Le système de santé français, une excellence menacée ». Retrouvons-le en salle des séances.
Monsieur le Président, cher Bertrand, merci. Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donc en 45 minutes essayer de parler du système français, de montrer comment on peut le comparer à ceux d'autres pays occidentaux, puis dire un mot des trois grands systèmes, mais très différents, le système britannique, le système allemand et le système des États-Unis, et puis revenir sur ma position, la problématique de la réforme dans le système de santé en France. Alors, comme vous le savez, le 1er janvier 2000, l'Organisation mondiale de la santé a classé le système de santé français numéro 1. Alors, c'était dû à des problèmes de décimologie, c'est-à-dire que la France avait eu la première place, car elle avait un très mauvais score sur son niveau d'éducation. Et comme le niveau d'éducation venait en dénominateur d'une des variables, ça lui a permis d'être classée première. Alors, bon, il est certain néanmoins que nous avons un excellent système de santé. Il se trouve que, au cours des années passées, j'ai, pour l'OCDE, évalué le système de santé irlandais. Le système de santé irlandais est très, comment dirais-je, il y a une rusticité britannique à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ben, en Irlande, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de pompiers non plus, il n'y a pas vraiment de transport en commun, donc comment vous rendez à l'hôpital? Ben, en gros, comme vous pouvez. Et dans une pièce comme celle-ci, vous auriez une personne qui se ferait dialyser, une autre qui se ferait endoscoper, enfin des choses qu'on ne voit plus en France depuis au moins une quarantaine d'années. Il se trouve qu'un an avant la crise, j'ai évalué aussi le système de santé grec, toujours pour l'OCDE, et que j'ai découvert un système totalement corrompu, mais à un point que vous ne vous pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que ça commence à l'hôpital où pour avoir une infirmière qui vous surveille la nuit, il faut la payer, donc le racket est organisé localement, et ça se termine au plus haut sommet de l'État. Il se trouve que je vais également aussi assez souvent en Chine sur ces questions-là, et qu'en Chine aujourd'hui, il faut une enveloppe rouge quand on se fait opérer. Et l'enveloppe rouge dans ce pays officiellement communiste, mais également assez corrompu, l'enveloppe rouge est en gros de 3 000 $ pour qu'un chirurgien veuille bien vous regarder 30 secondes afin de vous opérer. Alors, dans beaucoup de pays au monde, ce n'est pas le cas, bien entendu, mais à chaque fois que je reviens en France, je me dis qu'on a la chance d'avoir le système que nous avons. Alors, ceci étant dit, je redirai des choses un petit peu plus détaillées tout à l'heure sur la médecine. Quand on regarde le système de santé français, et c'est très important de le redire, même si ici tous nous en sommes conscients, mais nos enfants ne le sont pas. Moi, je suis né en 1944. En 1944, l'espérance de vie était de 60 ans. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, elle est de 82 ans. Quand mon père est né en 1903, elle était de 50 ans. Quand mon grand-père est né, il se mariait tard, en 1967, elle était de 42 ans. Et quand le grand-père de mon grand-père est né en 1820, elle était à peu près de celle du temps de l'Empire romain, parce qu'à certaines époques de l'Empire romain, on avait des espérances de vie assez élevées à Rome. On pense qu'à certaines époques, l'espérance de vie était de 45 ans, ce qui est donc beaucoup plus que la France du début du 19e siècle. Alors, tout ceci est très étonnant, parce que souvent, quand je fais des conférences sur ce sujet, je dis on ne s'étonne jamais d'être vivant, mais la probabilité d'être vivant est très, très faible. C'est-à-dire, quand vous prenez le premier être vivant qui a existé sur la surface de la planète, au début, en gros, il y avait 1 sur 10 000 qui passait. Et pour vous donner un indicateur beaucoup plus récent que le début de l'histoire de la vie sur Terre, en 1850, à Paris, naissaient 56 000 enfants. 26 000 étaient abandonnés, 26 000 étaient abandonnés, et 80% mouraient dans l'année. Et on pense, alors on a tous appris, enfin moi j'ai appris dans mes livres d'histoire que les problèmes de la France au 19e siècle étaient la baisse de la natalité. Comme vous savez, il y a un excellent historien qui s'appelle Gérard Jorland qui montre que c'est plutôt une surmortalité, plutôt qu'une baisse de la natalité. Il y avait une très forte surmortalité française. Et notamment, si nous avons perdu la guerre de 70, c'est que parce que les Prussiens étaient vaccinés, ce qui n'était pas notre cas. Et d'ailleurs, ça m'a touché tout à l'heure en passant sous le porche, voir le portrait de Lavoisier, qui, vous savez, non seulement l'inventeur de la chimie, mais également l'inventeur de la santé publique. Donc voilà, il y a un phénomène tout à fait nouveau, tout à fait étonnant, c'est que non seulement nous sommes en vie, que la mortalité périnatale a quasiment disparu, puisqu'aujourd'hui on est autour de 3 pour 1000, donc la France n'est pas très bien classée, mais les différences sont très 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 minimes, et que non seulement, et c'est une bonne nouvelle, non seulement nous vivons plus longtemps, mais nous sommes moins dépendants. Alors ça aussi, contrairement à ce qu'on entend souvent, quand vous savez, le rapport du Club de Rome de 70, halte à la croissance, on a depuis néanmoins gagné 11 années d'espérance de vie, donc ce qui est beaucoup. Et à l'époque, on était 12 mois dépendants, et aujourd'hui, on est en moyenne 9 mois dépendants. Donc les années de vie que nous avons gagnées sont des années de vie en bonne santé. Et tout ceci est aussi étonnant que remarquable. Alors, dans vos diapositives qui ont été déposées, on va passer à la seconde diapositive pour vous montrer quand même que, en quelques mots, ça, je me suis intéressé à ça en regardant les éventuelles catastrophes de Tchernobyl, et c'est des graphiques qui m'ont été donnés à la fois par l'INED et par les démographes ukrainiens. Comme vous le savez, la catastrophe de Tchernobyl a tué beaucoup moins de gens qu'on ne le dit, puisqu'elle a tué en gros 63 personnes, que l'on peut nommer, depuis 1985, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Alors, en revanche, si vous regardez ce deuxième graphique, vous voyez qu'on voit l'histoire des nations dans leur espérance de vie. Alors, c'est assez simple. Vous avez 5 pays, donc les États-Unis, la France, l'Ukraine, le Japon et la Russie. 1939-2000. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes dans ce graphique. On pourrait y passer longtemps, mais on va passer une minute. En 1939, les Américains vivaient 15 ans de plus que les Japonais, 20 ans de plus que les Russes. Et moi, la chose qui m'a le plus surpris dans ce graphique, c'est la convergence. Quand vous regardez donc les espérances de vie, vous voyez que au milieu des années 60, elles convergent, puis se remettent à diverger. Donc les années 1960, c'est en Union soviétique, donc à l'époque de Khrouchtchev, c'est aussi les bienfaits des antibiotiques, des vaccinations obligatoires, puis vous voyez que et c'est pour ça que je vous ai propose ce graphique cet après-midi. Les Japonais donc vivaient 15 ans de moins que les Américains en 39. Aujourd'hui, ils vivent 5 ans de plus. Donc le différentiel est tout à fait considérable, mais on parlera d'argent tout à l'heure. Les Français qui vivaient 6 ans de moins vivent aujourd'hui 3 ans de plus que les Américains. Quant aux pauvres Russes et aux et Ukrainiens, ils se sont cassés la figure dans ce domaine-là aussi. Une situation française qui est bonne, vous savez qu'on gagne 3 mois d'espérance de vie, sauf l'année dernière, où du fait du principe de précaution, pour la première fois, l'espérance de vie des femmes a baissé. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le principe de précaution? Alors, c'est assez simple, et c'est une publication de l'INED d'il y a 15 jours. Du fait du débat sur la grippe H1N1, vous savez, on a débattu du fait de savoir si l'adjuvant était ou non dangereux. Alors, c'est un vieux débat qui a d'ailleurs coûté sa réélection à Gerald Ford, cette histoire, puisqu'il a perdu les élections du fait, on croyait que la vaccination de la grippe avait induit des maladies neurodégénératives, et notamment la maladie de Parkinson. On a démontré après que c'était faux. Mais toujours est-il que le débat a continué, et comme vous vous en souvenez, au moment de la grippe H1N1, donc, on a dit qu'on donnerait un vaccin sans adjuvant pour les femmes et les enfants. Tout le monde a compris que c'était dangereux. Et donc, l'année dernière, les vaccins contre la grippe ont baissé de 10%. 10%, c'est 1 million de personnes. Et comme il y a une épidémie de grippe assez sévère l'année dernière, une surmortalité très précise au mois de février 2012, et donc pour la première fois, une baisse de l'espérance de vie des femmes. Alors pour les hommes, c'est à peu près constant. Mais enfin, néanmoins, donc on continue à gagner 3 ans, mais on en gagne un peu moins vite que les autres pays. Et notamment, nous sommes toujours les recordman mondiaux de la consommation d'alcool. Donc, 11,4 litres d'alcool pur par an et par habitant. Enfin, on était à 20 litres d'alcool pur il y a 40 ans, donc on s'abaisse. Mais, et pour le tabac, c'est également la même chose. Nous baissons beaucoup moins vite que des pays comparables. Et notamment que la Suède, en France, il y a encore 36% de la population adulte qui fume, alors que dans les pays nordiques, c'est descendu au-dessus de 25%. Donc l'essentiel de la variance, c'est tabac-alcool. Et alors nous nous situons très très bien sur les questions de mortalité cardiovasculaire, parce que nous sommes le pays qui a les plus bas taux du monde, mais en revanche, dans les domaines des cancers, c'est pas tout à fait le cas. Alors comme vous le savez, on dit beaucoup de bêtises, et notamment parce qu'on confond les probabilités relatives et les probabilités en valeur absolue. Donc vous savez, dans la presse, on nous inquiète en nous disant c'est très grave, le pourcentage de morts par cancer augmente. C'est vrai, mais le nombre de personnes qui meurent de cancer diminue. Alors le pourcentage augmente parce que les autres causes de décès baissent plus vite. Donc voilà, je m'aperçois qu'il faudrait donner des cours de statistiques de base à beaucoup de journalistes. Ils en tireraient profit. Alors, comment ?
Notamment.
Mais là, c'est effrayant. Et donc, nous avons des indicateurs de santé qui sont à peu près corrects. Encore une fois, l'essentiel, c'est le tabac et l'alcool. Et nous avons un système médical. Alors, il existe peu de comparaisons internationales sur l'efficacité de la médecine. Je vous prie de m'excuser, ce diagramme est en anglais, donc c'est le troisième. Et vous avez donc un graphique qui place la France en tête de tous les pays comparés et qui montre que les maladies qui sont, entre guillemets, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais que l'on peut soigner du fait de l'efficacité de la médecine, la France est le pays qui a le meilleur score des pays comparés. On a un système médical qui fonctionne bien. Et on en a beaucoup d'autres indicateurs. Vous savez, les Américains, pour vous donner juste un chiffre, les taux d'ablation de l'utérus en France, c'est 7% chez les femmes de plus de 50 ans. Aux États-Unis, c'est 50%. Donc 50% des femmes de plus de 50 ans ont été opérées. Donc les Américains font un peu la chirurgie comme ils font la guerre. Ils coupent d'abord et ils réfléchissent après. En revanche, au Royaume-Uni, c'est assez parcimonieux. Donc ils ont le bistouri relativement lent. Et la France a, dans ce point de vue-là, un équilibre tout à fait correct. Alors, vous savez, on nous dit aussi que les indicateurs de vie en bonne santé en France ne seraient pas aussi bons que dans d'autres pays. Alors, il faut beaucoup se méfier des statistiques déclaratives. Ce sont des statistiques déclaratives. Et il y a une statistique. Alors, notre base de données pour ce genre de propos, c'est celle de l'OCDE. Il y a une statistique qui m'amuse beaucoup parce que quand vous comparez le Japon et les États-Unis, vous demandez aux Japonais est-ce que vous vous sentez en bonne santé, ils vous disent non. Ils sont quasiment au dernier rang, 40e rang. Et quand vous posez la même question aux Américains, ils vous disent oui. Et la qualité de la santé entre les deux pays est inverse, puisque je vous disais tout à l'heure que les Américains vivent 5 ans moins que les Japonais. Donc, voilà, il faut se méfier des statistiques déclaratives. Alors, bon, le système de santé français a de persistantes inégalités. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est pas toujours celle que l'on croit, et une excellente médecine, je l'ai dit. Alors, quelle est la particularité du système de santé français? C'est qu'il est très onéreux. Donc nous sommes aujourd'hui le deuxième ou troisième pays au monde. On va regarder ça un petit peu en détail avec quelques statistiques. Et je parlerai de la dette tout à l'heure. Si vous voulez, en France, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 40 ans, les dépenses de santé en France étaient 5,7% du PIB. En Suède, c'était 6,3%. Aujourd'hui, en Suède, c'est 10 et en France, c'est 12. Or, un point de PIB, c'est quand même 20 milliards d'euros. Donc, en gros, et si on se compare à la moyenne des pays comparables, on dépense à peu près 50 milliards d'euros de plus que les pays comparables. Alors, on va parcourir ensemble et assez vite un certain nombre de statistiques. Donc, vous voyez ensuite les statistiques de l'OMS qui vous montrent qu'il y a une corrélation entre les dépenses de santé par habitant et l'espérance de vie, mais vous voyez ensuite, et on va regarder ça comme si c'était un petit film, j'ai présenté ça aux États-Unis il y a un an, c'est des statistiques assez amusantes, me semble-t-il. Donc, vous avez un tableau, et pardon, il est toujours en anglais, donc espérance de vie à la naissance et dépenses par tête 1970. Alors, vous voyez que les pays sont très proche, si ce n'est qu'on voit la Norvège et la Suède qui ont déjà une espérance de vie. Alors vous tournez la page, vous voyez la prochaine tableau, c'est le même 80. Donc vous voyez apparaître la Corée et le Japon qui commencent à se distinguer. Regardez bien sur la droite, vous voyez les États-Unis qui commencent à se distinguer aussi. 1990, le même tableau. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, les dépenses croissent alors que l'espérance de vie n'augmente pas. La Corée atteint quasiment dès 90 l'espérance de vie américaine. 2004, vous voyez qu'en 2004, donc les dépenses de santé en parité de pouvoir d'achat aux États-Unis, c'est 6 500 $. En Corée, c'est 1 200 $. Et les Coréens ont une espérance de vie supérieure aux Américains. Et vous voyez toujours que donc le record mondial, c'est le Japon. 2006. Donc, les États-Unis continuent à avoir une inflation spécifique qui est très très forte, la Norvège, ça se voit, a trouvé du pétrole, mais a une espérance de vie qui n'augmente pas beaucoup. Alors, vous avez ça présenté différemment, mais de manière aussi, à mon avis, illustrative, sur donc ça c'est en 2009, donc c'est un tableau avec deux variables, toujours les mêmes, hein, les dépenses de santé en pourcentage du PIB, et l'espérance de vie. Donc vous voyez le pays où on vit le plus vieux, que le Japon, et le pays où on dépense le moins, et le pays où on vit le moins vieux, ce sont les États-Unis, c'est celui où on dépense le plus. Le graphique suivant, c'est la même chose en taux de croissance. Donc vous avez les taux de croissance 90-2009. Donc vous voyez 5% du PIB américain, c'est énorme, hein, de taux de croissance et une faible croissance de l'espérance de vie. Et je ne sais pas s'il y a des amis de l'industrie pharmaceutique ici, mais quand on prend seulement les dépenses de pharmacie, donc ça c'est le dernier graphique, vous voyez que la relation est totalement inverse, puisque moins on dépense, ou moins il y a de croissance, soit dépenses pharmaceutiques, plus on vit vieux. Alors ce tableau n'est pas obscurantiste, je vais y revenir. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On peut tirer de tout ça deux leçons assez simples. C'est que la première, c'est que la santé et la médecine sont des concepts différents. La santé n'est pas la médecine et la médecine n'est pas la santé. Il y a des tas de choses qui jouent sur la santé et que la médecine, pour lesquelles la médecine ne peut pas faire grand-chose. Il y a des tas de choses que la médecine, dont la médecine s'occupe, alors pas uniquement la chirurgie esthétique, mais également tout ce qui est procréation médicalement assistée, ces choses sont importantes, mais qui n'ont pas d'impact sur la santé. Et on voit que la qualité de vie des Japonais et leur espérance de vie a à voir beaucoup plus avec la manière dont ils se nourrissent, avec la manière dont ils vivent, qu'avec le système médical. Et que donc le système médical, parce que ce qu'on appelle dépenses de santé, en fait, est un abus de langage. Ce qu'on appelle dépenses de santé, c'est essentiellement à 99% des dépenses médicales. Il y a très très peu d'éducation pour la santé, il y a très peu de dépenses de santé publique. Alors, encore une fois, la médecine, c'est important, d'autant que la médecine ne fait pas que soigner, elle accompagne aussi des gens en fin de vie, et le fait en France de manière raisonnablement humaine. Donc, ceci et ces graphiques vous montrent que le lien entre dépenses de santé et indicateur de santé, et je vous dirai éventuellement pourquoi je choisis l'espérance de vie comme indicateur de santé, parce que c'est le seul, je crois qu'une des conditions pour apprécier la vie, c'est de vivre, et que dès que vous essayez de rentrer dans des détails un peu plus grands, en fait, vous êtes obligé de projeter chez d'autres des valeurs. Et moi, je trouve que la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour la santé, qui est un état de complet bien-être physique, psychique et mental, et la meilleure incitation à l'usage de drogue qu'on peut imaginer. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, un état de complet bien-être physique, psychique et mental, des bonnes années, quelques secondes, mais enfin, bon, ça n'a pas de sens, je trouve. On ne sait pas mesurer ça, bon, etc. Ben, en ce qui nous concerne, donc, ce que je voulais vous montrer et vous dire, c'est qu'il y a une dynamique différent entre la dynamique médicale et la dynamique sanitaire. Et donc, plus de médecine ne veut pas dire nécessairement plus de santé. Alors, si on s'intéresse deux secondes à la pharmacie, vous verrez ça dans le texte que j'ai écrit, que je vous remettrai. Vous voyez que nous dépensons en France, en parité de pouvoir d'achat, en 2011, 650 €, presque 700 € de dépenses de pharmacie par habitant et par habitant et par an. Si vous prenez la Norvège, le Danemark, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, on est à plus de $300 de moins. Et donc, il est clair que l'industrie pharmaceutique est une très très grande industrie, que c'est grâce à elle que la médecine et la chirurgie se sont transformées. Mais il est clair aussi qu'au-delà d'un certain niveau de prescription médicamenteuse, ça a plutôt des effets néfastes que des effets bénéfiques. Si vous voulez, en France, 80% des consultations au moins sont suivies d'une ordonnance. Aux Pays-Bas, c'est 40%. Donc il n'y a qu'un seul pays qui nous dépasse, c'est l'Italie. Comme quoi, bon, les pays catholiques ne croient plus en Dieu, mais croient en la médecine, alors que les pays protestants croient peut-être toujours un peu en Dieu, mais croient donc pas nécessairement en l'efficacité de la médecine. Alors, enfin, pourquoi sommes-nous chers ? Alors, nous sommes chers, c'est très simple. Nous sommes chers parce que nous choisissons toujours le plus cher. Donc, en France, nous préférons l'hôpital à la ville, les spécialistes aux généralistes, les médecins aux infirmières, et nous prescrivons beaucoup. Voilà, c'est tout. Alors, nous hospitalisons beaucoup. Nous hospitalisons en France 70% de plus que la moyenne des pays comparables. C'est énorme, hein ? Donc en France, c'est 260 hospitalisations par an. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 160. Nous avons en France 2800 hôpitaux. Il y en a 2080 en Allemagne. 640 au Royaume-Uni. Et nous avons autant de gens qui travaillent dans les hôpitaux en France que de gens qui travaillent dans les hôpitaux en Allemagne. Alors, comme vous le savez, en Allemagne, il y a 25% d'habitants en plus. Donc, vous avez un indicateur de la différence de productivité entre l'Allemagne et la France, c'est à peu près 25%. Alors, beaucoup de spécialistes, et ça, je vous annonce malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est que les généralistes, à force de leur taper dessus, il y en a de moins en moins. Nous aurons dans 5 ou 6 ans 30% seulement de généralistes en France. Aujourd'hui, on est à 45%, mais nous étions à 70% de généralistes. Et je vous jure qu'un système, un pourcentage des médecins, hein, et donc les autres sont des spécialistes, et donc je vous jure qu'un système de santé avec 30% de généralistes, c'est pas du tout le même qu'un système de santé avec 60 ou 70% de généralistes. Parce que, comme vous le savez, le système de rémunération favorise les spécialistes. On pourra en reparler un peu en détail, si vous le souhaitez, un peu plus tard. Nous avons 2,5 infirmières par médecin. Les pays anglo-saxons en ont 5. Et enfin, je vous ai dit qu'on prescrivait beaucoup. Donc, si on prescrivait, comme les pays que j'ai indiqués, 300 euros... par an et par habitant, donc multiplié par 65 millions, ça fait pratiquement 20 milliards par an. Donc c'est supérieur au déficit de l'assurance maladie. Donc nous choisissons toujours le plus cher. Alors malheureusement, et c'est le diagramme suivant, ces dépenses sont financées par la dette. Alors vous avez sur ce graphique en couleur trois indications. Donc, le PIB qui est en violet, la consommation des soins et biens médicaux qui est en parme, et en bleu, l'objectif des dépenses d'assurance maladie. Alors, on voit tous le décrochage de 2008. Donc, car les dépenses de santé ont continué de croître alors que la France était en récession. Et vous voyez que malheureusement, la courbe violette, au lieu de se rapprocher, continue de s'éloigner. Donc, pour combler ce déficit, il faudrait des mesures qui ne sont pas prises, puisque cette année encore, l'objectif des dépenses d'assurance maladie de 2013 a été fixé à 2,7. Or, comme vous le savez, bon, c'est plus la masse salariale que la croissance du PIB qui joue, mais la masse salariale cette année, si elle croît de 1%, ça sera bien le maximum. Donc, on a un système financé par la dette, et c'est une des différences avec l'Allemagne, dont je dirai un mot tout à l'heure, où il n'y a non seulement pas de dette, mais des excédents. Alors, vous voyez dans le graphique suivant, le graphique que j'appelle dans le papier le graphique de la honte, c'est-à-dire que tout ça n'est possible que parce que nous avons passé ça aux seuls qui ne pouvaient pas hurler, c'est-à-dire les générations futures. Et donc, par l'intermédiaire de la CADES, nous avons transféré de l'ordre de 140 milliards d'euros aux générations futures, et vous voyez qu'il y a un décrochage.
La CADES, c'est-à-dire la caisse d'amortissement
des dépens de la dette, qui est une invention de M. Balladur, je crois, en 1993. Et donc, on rallonge et on accroît. Enfin, les deux. Alors, encore une fois, tant qu'on a la chance d'avoir des taux d'intérêt relativement bas, ça va à peu près, mais le jour où ça va s'arrêter, vous voyez le drame qui est dans ces graphiques. Alors, voilà, je termine donc, avant de vous dire quelques mots sur les pays étrangers et de revenir à la France. Donc, encore une fois, nous avons un bon système médical, même très bon. Je pense qu'on a probablement d'ailleurs la meilleure chirurgie du monde. Beaucoup d'interventions chirurgicales ont été inventées en France, alors malheureusement sur des appareils japonais ou allemands, mais pratiquement toute l'endoscopie digestive a été inventée en France. Nous avons des hôpitaux qui fonctionnent, j'avais presque envie d'en utiliser l'imparfait, plutôt bien, même si, j'en dirais un mot, ça se détériore. Mais malheureusement, tout ça est financé par de la dette et par un mépris assez fort à l'égard des médecins généralistes qui ont été toujours sélectionnés par défaut. Et vous savez, on s'est beaucoup battu pour savoir si on allait passer leur consultation de 22 à 23 euros. Or, pour vous donner une indication, si vous voulez, le revenu horaire, c'est donc 69 euros, parce que c'est 15 minutes de consultation, 5 minutes de travail administratif. 69 euros de l'heure, quand on connaît le prix d'un avocat ou le prix d'un consultant, on voit qu'on est assez loin de ce que gagnent les autres professions. Alors, quelques mots sur les systèmes étrangers. Les comparaisons internationales, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'y passe beaucoup de mon temps. Comme Bertrand Collomb le rappelait, effectivement, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et j'y enseigne. Et je vais très souvent et en Angleterre et en Allemagne et dans d'autres pays, parce qu'il faut non seulement bien connaître les détails du pays, il faut que le pays comprenne pourquoi ce qui lui arrive, ce qui n'est pas toujours évident. Et ensuite, il faut en tirer des leçons. Alors, en anglais, c'est beaucoup plus chic. Si tu veux, c'est pour learn from, il faut learn about and learn why. Voilà. Donc, comment peut-on apprendre d'eux? Alors, juste un mot sur le système britannique, sur lequel je vais m'arrêter peut-être un peu plus longtemps que les autres. Le système britannique est très, très particulier. C'est le seul qui ne vienne pas du financement des arrêts de maladie. En fait, on a inventé, ou plutôt Bismarck a inventé la sécurité sociale en 1883 pour, comme vous le savez, lutter contre la montée du socialisme en Allemagne. Donc Bismarck a inventé ce système-là, et nous en France, c'est pareil, en 1945, pour faire en sorte que les gens, quand ils étaient malades, puissent avoir un revenu. Et en France, les indemnités journalières vont être supérieures aux dépenses d'assurance maladie seulement à partir de 1958. Alors, en Angleterre, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est un système qui vient des dispensaires, de la santé publique, de la vaccination obligatoire, et pour lesquels on considère que la partie médicale est, un mal nécessaire. Alors, il y a en plus un accord britannique qui est le suivant, qui a bougé avec Tony Blair notamment, mais qui est, vous, l'État, vous nous donnez l'argent que vous pouvez nous donner, mais ensuite, vous nous laissez faire. Et notamment, pour un médecin français, le médecin français ne comprend pas que le système de rationnement britannique est organisé par les médecins et que c'est eux qui tiennent les listes d'attente. Alors, il y a également une deuxième différence majeure entre les Anglais, et qui est à mon avis politiquement importante, c'est que les Anglais considèrent, nous considérons en France que les pauvres sont malades, les Anglais considèrent que la meilleure manière de lutter contre la pauvreté, c'est faire en sorte que les gens ne soient pas malades. Donc la santé, la politique anglaise, c'est vraiment la vaccination obligatoire, toutes les mesures de santé publique, notamment chez les plus démunis, alors que nous, on considère qu'une des inégalités de la santé, c'est la pauvreté, mais on n'a pas, on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement comme le vont les Anglais. Alors, en quelques mots, le système a assez peu bougé. C'était le système le plus égalitaire, et ça l'est toujours. Entre les régions anglaises, vous avez des différences de dépenses de santé qui varient de 15%, alors qu'en France, c'est de 50%. C'est un système où Tony Blair a mis beaucoup d'argent pour faire croître et limiter les listes d'attente. Mais c'est un système qui est très, très bon du point de vue de la recherche, mais qui a, encore une fois, une rusticité qui est assez peu française. Et assez peu étrangère. Alors, le système britannique a été copié souvent, et notamment il a été par les Italiens. Donc, il y a une réforme en Italie en 78 qui se sont inspirés beaucoup du système anglais. Mais la seule chose que les Italiens ont oublié, c'est qu'ils n'étaient pas anglais. C'est-à-dire que la structure est la même, mais en Angleterre, même la reine n'interviendrait jamais sur une liste d'attente. Mais en Italie, okay, on connaît quelqu'un qui, etc. Donc, bon, ça marche pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est une des choses que j'ai apprises, c'est que dans la plupart des systèmes, l'essentiel n'est jamais écrit. C'est-à-dire que, bien au-delà de la structure, il y a les valeurs, et que le système britannique, quand on change de pays, ne fonctionne pas parce qu'il y a des valeurs assez... J'ai le père d'un ami qui... malheureusement, est mort d'un cancer, et il était à l'hôpital, et il demandait à son médecin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et son médecin lui a vraiment dit rien. D'ailleurs, je vois pas ce que vous faites ici, rentrez chez vous. Et il a rajouté un poids très, une phrase très britannique, rentrez chez vous, et surtout, ne soyez pas un poids pour votre entourage. Bon, c'est assez peu français, ça. Alors, le système allemand est assez différent, et on le connaît tous assez bien, puisque nous sommes inspirés après la guerre de 14 d'abord, j'en dirai un mot, du système bismarckien. Mais il y a une différence essentielle entre le système allemand et le nôtre, c'est qu'en Allemagne, il y a une co-gestion avec la profession médicale. Une des choses que la plupart des gens ne disent pas, c'est que en Allemagne, les caisses d'assurance maladie ne payent pas directement les médecins, elles payent la caisse des médecins. Et c'est les médecins qui contrôlent. Et donc, on a un système compliqué de points, par exemple, quand vous appelez un médecin allemand au téléphone, donc il a 80 points. Bon. Alors, pourquoi on fait pas ça en France? Parce que personne ne ferait la police. Alors qu'en Allemagne, la caisse des médecins fait la police si jamais un de leurs confrères... alors, comme vous le savez, c'est un système compliqué entre les caisses professionnelles, dont beaucoup ont fusionné, et les caisses régionales, dans lesquelles les lenders interviennent. Et il y a un système de co-gestion qui est très, très fort entre la majorité, enfin, entre les deux grands partis allemands, puisqu'en 2002, ils ont eu 3 milliards d'euros de déficit. Et donc, la coalition a dit que c'était vraiment pas raisonnable, 3 milliards d'euros de déficit. Donc, ils ont pris un certain nombre de mesures. Et comme je le disais tout à l'heure, en 2011, ils avaient 19 milliards d'euros d'excédent, 16 milliards d'euros d'excédent cette année. Et ils n'ont pas 150 milliards de dettes. Alors, le système américain est un peu le contre-exemple, et si je vous en parle, on le connaît en général assez bien. La réforme Obama a joué un rôle en permettant, c'est une réforme compliquée, mais en permettant donc à peu près à 30 millions d'Américains d'avoir accès à une assurance maladie. Et là, il faudra regarder le dernier des graphiques, qui est en bleu avec la moyenne en rouge, donc pour essayer, à propos du système américain, de comprendre le paradoxe suivant, qui est comment se fait-il que le pays où les gens payent le plus de leur poche soit aussi le pays le plus cher. Donc vous voyez que en moyenne, nous sommes donc à 9,5 du PIB, la France, je l'ai dit, est à 11,8, mais vous voyez aussi que, curieusement, les pays qui ont un fort taux de couverture publique ne sont pas nécessairement les plus chers. Alors, en quelques mots, mon idée est la suivante. Bon, vous savez, l'économie de la santé pose un problème pour lequel il y a eu un prix Nobel d'économie, qui est celui de l'asymétrie d'information. Donc, dans le domaine de la santé, l'information entre le médecin et son malade sont asymétriques. Et Kenneth Arrow donc, a écrit un papier qui lui a valu le prix Nobel sur ce sujet il y a maintenant longtemps. Et c'est vrai, un des problèmes centraux de la politique de santé, c'est comment peut-on réduire l'asymétrie entre le médecin et le malade. En France, c'est théoriquement les médecins contrôleurs des caisses d'assurance maladie qui devraient le faire, ne le font pas. Je en dirai un mot tout à l'heure. Alors, donc, outre ce que dit Kenneth Arrow, je pense qu'il a raison, c'est que quand vous avez un marché de l'assurance, en fait, quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce que vous achetez vraiment? Vous achetez de la confiance. Et comme le seul moyen que vous avez de juger de la confiance, c'est le prix, vous pensez que les bons médecins sont les médecins chers et que les bons hôpitaux sont les hôpitaux luxueux, et que donc les gens riches ont des assurances qui couvrent les médecins chers et les hôpitaux luxueux, les gens un peu moins riches, ainsi de suite. Et avec un de mes amis américains, on essaye de documenter ça empiriquement, ce qui n'est pas très facile parce qu'il faut faire des calculs de taux d'inflation. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais bon, il en est ainsi des banques d'affaires, comme vous le savez, et des grands avocats. Bon, ils sont bons parce qu'ils sont chers, ils sont chers parce qu'ils sont bons. Et ce que vous achetez, c'est en fait de la confiance plus que du service. Et en fait, vous produisez de l'inflation. Donc le système américain, beaucoup de mes amis américains le disent et le répètent, qu'un des problèmes de la réforme Obama, c'est qu'elle ne va pas toucher au mécanisme d'inflation aux États-Unis. Et effectivement, la différence entre les États-Unis et nous, et la raison du prix américain, c'est que effectivement les prix d'unité d'œuvre sont très élevés. Si vous voulez, une infirmière aux États-Unis qui a 2 ans d'expérience, elle gagne, vous traduisez ça en euros, elle gagne en gros 90 000 euros par an, 90 000 dollars. En France, il y a 3 fois moins. Donc, c'est essentiellement une différence de coût de production. Comme vous le savez, les Américains aussi payent plus cher leurs médicaments que nous le faisons. Et l'industrie pharmaceutique américaine dit, mais on n'a aucune raison de financer le reste du monde. Enfin, bref. Alors, retour et conclusion sur la France. En fait, quand vous regardez le système de santé français et que vous essayez de comprendre ses particularités, vous voyez que sur un siècle, en fait, il y a peu de choses qui comptent. Alors, la première chose qui compte, et ça vous surprendra peut-être, c'est une réforme de 1925. Après la guerre de 14, Alexandre Mirand a demandé au premier ministre de la Santé, qui s'appelait M. Jourdan, de faire une loi d'assurance maladie. Et cette loi a été votée en 1925. Avec un débat déjà sur la notion de tarif opposable. Donc aujourd'hui, on dirait secteur 1, secteur 2. Donc dans quelle limite les prestations des médecins sont-elles? Alors, à l'époque, il y avait très peu de médecins payés à l'acte. Et c'était pas chic du tout d'être payé à l'acte. Il y avait simplement les grands patrons parisiens, lyonnais et montpelliérains qui étaient payés à l'acte. Les autres, pour l'essentiel, venaient avec leur canne et leur chapeau présenter leurs honoraires à l'époque de la fin d'année, puisque 40% de la population française était agricole. Comme vous le savez, les fermages, c'était Saint-Michel, donc le 29 septembre. Et là, c'était donc à la fin de l'année. Alors, cette loi donc est votée en 1925. Et à la suite de cette loi, sont créés les principes de la médecine libérale en réponse à cette loi. Et le Parlement va reculer une fois en 1928 et une fois en 1930. Alors pour sauter entre 1930 et 2013, le débat qu'a à nouveau lancé Mme Touraine sur les dépassements d'honoraires est un débat qui a exactement 83 ans, donc puisque ça commence en 1930. Il y a eu un tarif opposable national seulement entre 1971 et 1980. Avant 1971, les caisses primaires d'assurance maladie négociaient avec les médecins. Après 1980, il y a eu le secteur 2. Donc c'est un vieux débat dont on connaît les termes, et s'il eût été prudent de conseiller à Mme Touraine de ne pas se lancer dans cette affaire, qui par ailleurs est marginale, comme vous le savez, puisqu'il y a en France 200 000 médecins, 120 000 libéraux, 30 000 au secteur 2, 5 000 qui prennent plus de 45 euros la consultation et 1 500 qui prennent plus de 90 euros la consultation. Donc c'est un sujet, mais c'est probablement pas le sujet le plus immédiat et le plus important. Donc premièrement, nous refaisons le débat des années 30. Et les Français n'ont vraiment parlé avec leurs médecins qu'entre 1930 et 1925. Deuxième chose, l'ouverture de l'hôpital public aux gens qui n'étaient ni indigents ni accidentés du travail. Donc là, il a fallu attendre 1941. Donc la raison pour laquelle on a des cliniques privées en France, c'est parce que avant la guerre de 40, des gens comme vous et moi ne pouvaient pas être admis à l'hôpital public. pour être admis à l'hôpital public, il fallait être ou indigent, ou accidenté de travail, ou militaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cliniques privées en France. 45, la création de l'assurance maladie, qui, comme vous le savez, va mal démarrer, parce que l'inventeur de l'assurance maladie voulait un système universel, et que beaucoup de professions vont refuser ce système. Et ce qui fera qu'on aura le régime agricole, le régime des clercs de notaire, le régime de, voilà. Et on va jusqu'en l'an 2000 essayer de rattraper. Et vous savez, tout change avec la loi CMU, puisque la loi CMU dit, pour être affilié à l'assurance maladie, il ne faut plus travailler. Enfin, il n'est plus nécessaire de travailler, pardon. Il faut résider légalement sur le territoire. Alors, autrement dit, nous avons 100 000 personnes dans les caisses d'assurance maladie qui, aujourd'hui, vérifient des droits que tout le monde a. La multiplicité des régimes pour l'assurance maladie n'a plus aucun sens, puisque tout le monde est remboursé de la même façon, et tout le monde a à peu près les mêmes droits. Alors, dans les grandes réformes, il y a la réforme de Debré, 1958, et puis la réforme Boulin de 70, qui sera modifié une trentaine de fois depuis, avec une évolution tout à fait fascinante, et je vais terminer là-dessus en disant un mot de ce qu'on pourrait apprendre des autres pays, c'est que, vous savez, Churchill disait avant la guerre que la différence entre les grands pays, les quatre grands pays, c'était qu'en Angleterre, tout était autorisé sauf quand c'était interdit. En France, tout était autorisé même quand c'était interdit. En Allemagne, tout était interdit même quand c'était autorisé. Et en Russie, tout était interdit même quand c'était autorisé. Alors, la politique hospitalière, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en 1970, tout était autorisé, sauf quand c'était interdit. Aujourd'hui, tout est interdit. Donc, ce qui est simple, c'est que on a assisté à une étatisation de la santé publique, un point absolument incroyable. Alors ça se traduit par des réglementations folles et nombreuses. Dans les hôpitaux, il y a 43 familles de règlements sur la seule sécurité. Et moi, j'ai été très très surpris que le gouvernement de M. Sarkozy fasse une réforme soviétique. Alors, donc la loi de 2009, qui s'appelle la loi HPST, donc hôpital, patient, santé et territoire, organise en France une hiérarchie directe entre le gouvernement, les directeurs régionaux d'agences et les hôpitaux, parce qu'on sait tous dans la vie, il y a deux choses importantes, hein, qui nomme et qui paye. Et quand vous regardez qui nomme et qui paye, vous voyez que c'est l'État qui nomme les directeurs d'hôpitaux, c'est l'État qui nomme le cardiologue d'Avignon. Donc quand vous dites ça, un Américain dit « ça marche comment chez vous ?» Je dis « écoutez, c'est un bureau à Paris qui nomme un cardiologue d'Avignon ». Si ça marche, mais c'est très cher. Bon. Et donc on a un système qui s'est rigidifié et l'État, en se donnant tous les pouvoirs, s'est paralysé, en fait. Et j'ai publié, grâce à M. Casanova, qui est là, un petit papier sur ces sujets, sur mes commentaires, sa revue, sur cette lecture de cette loi très, très curieuse. Et d'ailleurs, ça se montre bien qu'aujourd'hui, un ministre ne peut pas fermer un hôpital parce que l'élu local, la majorité ou l'opposition, peu importe, va lui dire « mais vous pouvez pas me faire ça, vous savez, il y a la grève, il y a l'emploi, il y a les élections l'année prochaine, etc. etc. » Donc, et ce qui est curieux, c'est qu'au même moment, et donc qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres pays, le Royaume-Uni faisait l'inverse. C'est-à-dire les NHS britanniques qui étaient très centralisés, ils ont créé des trusts publics. Alors c'est à peu près le cas aujourd'hui dans pratiquement tous les pays d'Europe où les hôpitaux publics ont pris une indépendance statutaire, tout en étant le plus souvent contrôlé par le capital contrôlé par l'État. Mais il est clair qu'on ne peut agir dans ces domaines que si on offre une indépendance relativement forte aux hôpitaux. Et non pas qu'on ait de gérer les hôpitaux par des règlements et une incontinence bureaucratique tout à fait regrettable. Alors, la dernière chose que ça nous apprend, c'est que, et c'est plutôt un bon espoir, c'est qu'il y a des marges de manœuvre. Donc, dans un pays où la dette publique et la dépense publique est ce qu'elle est, il est clair qu'on pourrait réduire de 4 à 5 milliards les dépenses de santé par an sans que la santé des Français en souffre le moins du monde. Et voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, et bien trop rapidement. Merci, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre la communication de Jean de Kerguizio de Kervasdoué devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 22 avril 2013. télécharger sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette, ou bien écouter en streaming les retransmissions des séances de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi celles de l'Académie des beaux-arts ou celles de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans nos émissions en séance.